verset 11. Nous allons lire les derniers versets de ce chapitre 7. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Dès le matin, nous irons aux vignes. Nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là, je te donnerai mon amour. Les mandragores répandent leur parfum et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Nous sommes là, n'est-ce pas, je le répète constamment, que nous ne le perdions point de vue, dans une parabole, c'est-à-dire, n'est-ce pas, une histoire qui a son, elle-même, n'est-ce pas, son déroulement, ses éléments, son déroulement, ses éléments, une histoire. On pourrait très bien d'abord la considérer, par exemple, entièrement en ce qu'elle est, cette histoire, cette parabole. Et puis, il y a sur cette parabole, portée par cette parabole, les révélations, les pensées, les idées qui, elles, sont de nature spirituelle. Si la parabole emprunte ses éléments à la terre ou aux relations entre les hommes ici, entre un homme, une femme, un fiancé, une fiancée, cela, c'est pour nous révéler des pensées spirituelles qui ne pourraient pas s'exprimer autrement. Je suis à mon bien-aimé et ses désirs se portent vers moi. Le psaume 45 s'exprimait déjà ainsi. Nous avons fait plusieurs rapprochements entre le psaume 45, qui est si manifestement, n'est-ce pas, lui, destiné. C'est plus clair, c'est plus net, c'est dit, n'est-ce pas, c'est indiqué, plus destiné vraiment au plus beau des fils de l'homme, à celui auquel Dieu dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ». Alors, il est là, c'est transparent, dans le psaume 45, on voit bien que c'est un psaume messianique, et qu'il s'adresse là à celui qui sera le plus beau des fils de l'homme, et qui sera roi. Eh bien, dans le verset 12, nous avons la même chose. « Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Là aussi, ce psaume, bien qu'il ait des transparences, et même des indications qui soient même, disons, directes sur son objet, l'objet qui est de nous présenter prophétiquement le plus beau des fils de l'homme, le Messie, eh bien cependant, lui aussi emprunte des éléments de parabole, et notamment ceux d'une noce qui se prépare. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, dit le psaume 45, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Le peuple élu, purifié, régénéré, appartient à l'Éternel. Ça, c'est important, c'est solide, c'est plusieurs fois affirmé de manière différente dans toute l'Écriture. Le peuple élu est un peuple que Dieu s'est formé pour lui, à lui. Il lui appartient. Et il lui appartient comme une épouse va appartenir à son époux. Je voudrais, pour que nous fassions encore un rapprochement entre le cantique que nous étudions et d'autres textes qui empruntent sensiblement les mêmes images, le même thème, le thème d'une fiancée, d'un fiancé. Le fiancé, c'est toujours l'Éternel. Alors, je voudrais que nous lisions quelques versets dans Ézéchiel 16. Ce chapitre 16 d'Ézéchiel est consacré, regardez le titre, est consacré à une parole de l'Éternel sur Jérusalem, vue sous l'emblème d'une femme prostituée. Jérusalem s'est prostituée, mais elle n'a pas été toujours prostituée. Lisons au verset 9, au verset 9, je te lavai dans l'eau, je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile. Nous avons là, n'est-ce pas, l'idée très claire, très nette, d'une purification. Je te donnai des vêtements brodés, et une chaussure de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, et je te couvris de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles, et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais ornée, dit le Seigneur l'Éternel. Et c'est bien ce que nous trouvons dans la Sulamite, n'est-ce pas? Cette beauté qui lui est vue, et qui est chantée sous différentes images, par le moyen de différents éléments, par différents aspects, n'est-ce pas? La beauté parfaite, vous voyez que c'est un thème qui n'est pas seulement dans le cantique, ça c'est un thème par conséquent dont la révélation de Dieu s'est servie à nous, de nous ajuster à cette voie de révélation qu'est ce thème, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de venir avec nos misérables petites pensées et nos raisonnements indignes. Il s'agit de s'ajuster au moyen, aux voies de la révélation de Dieu. C'est cela qu'il faut faire. Faut pas dire, n'est-ce pas, tiens, qu'est-ce que ça signifie ça et pourquoi ceci et pourquoi cela? Nous nous ajustons. Et nous le faisons dans un esprit de crainte de l'Éternel, c'est-à-dire dans un esprit qui se défend de céder à n'importe quel penchant et surtout à tout penchant qui pourrait offenser l'Éternel. Alors, voilà comment il faut que nous regardions, n'est-ce pas, la Sulamite. Elle était d'une beauté parfaite. Dans les dernières études que nous avons faites, nous avons vu, n'est-ce pas, cette beauté, et je l'ai bien sûr attribuée essentiellement à l'Église, l'Église corps de Christ. On peut l'attribuer à une âme, prise individuellement, une âme anonyme, une âme régénérée, élue. Mais en ce moment, il me semble qu'il est peut-être préférable de parler de l'Église tout entière. Nous avons aussi dans le prophète Ésaïe, vous voyez, il faut que nous nous aidions de différents textes, Ésaïe 62, verset 1, la réapparition aussi de la même idée. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Pour l'amour de Sion, je... voyez cet amour, c'est pas le prophète et qui a lui cet amour. Bien sûr, il aime Jérusalem, mais il est la bouche qui proclame les paroles de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu vraiment a un amour pour Sion. Sion, c'est Jérusalem. Et Jérusalem, c'est essentiellement son peuple. Ce sont pas les murailles, les maisons, n'est-ce pas? C'est son peuple, le peuple. Toujours, quand il est parlé de Jérusalem, quelquefois des filles de Jérusalem, il s'agit toujours du peuple que Dieu s'est donné et auquel il a donné cette capitale, Jérusalem. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. N'oubliez pas qu'il y a un nom nouveau aussi pour tous les vainqueurs. Et cela, bien sûr, est dans la même, c'est la même promesse. tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Dans la main de ton Dieu, voyez, ton Dieu te prend, te serre dans sa main. On ne te nommera plus délaissé, la veuve, l'oublié, celle qui est toute seule. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Mon plaisir, le plaisir de Dieu dans ce peuple. Et l'on appellera ta terre épouse. Voyez, toujours le même thème. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Vous voyez, l'Éternel met son plaisir en toi. C'est ce que nous avons eu dans le cantique, là, n'est-ce pas? Je suis à mon bien-aimé, ses désirs se portent sur moi, ou le roi porte ses désirs sur ta beauté. C'est exactement la même affirmation. On t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Vous comprenez, n'est-ce pas, que le cantique des cantiques, eh bien, c'est en somme le thème de l'époux et de l'épouse, ou du fiancé et de la fiancée, n'est-ce pas, qui a été élargi, qui a été embelli, dont on a fait un livre tout entier. C'est cela. Mais le thème, voyez-vous, n'est-ce pas, a une emprise, une apparition, qui est véritablement saisissante, dans toute la Bible, toute la révélation de Dieu. Et quand nous pensons que nous sommes fondés, mes amis, à voir dans le peuple de Jérusalem, non seulement celui qui est en voie de rassemblement et qui accueillera le Seigneur Jésus lorsqu'il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, mais nous sommes fondés, car le parallélisme est absolument certain et affirmé de tant de parts. Nous sommes fondés à prendre cela pour l'Église, à le prendre pour l'Église. L'Éternel veut mettre son plaisir en l'Église, et il veut que l'Église soit vraiment une épouse qui se prépare. Mes chers amis, je vous le disais l'autre jour, nous avons besoin de cette vision. Nous l'avons complètement perdue, cette vision de l'épouse pour l'Église. Alors nous sommes quoi? Eh bien, nous sommes des chrétiens évangéliques. Eh bien, nous sommes des assemblées locales, des assemblées. Nous ne sommes que cela. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une épouse. Dieu veut vraiment prendre son plaisir en un peuple uni par son esprit. Voilà ce que veut le Seigneur. Assez de nos petites histoires, assez de notre esprit qui rétrécit toutes choses, assez de ces choses-là. Le Seigneur veut prendre son plaisir dans l'Église, et il veut lui donner une beauté parfaite, digne de la royauté. Heureuse est l'Église qui se voue à sa vocation d'épouse, s'oubliant elle-même pour son Seigneur qui l'a parée, qui l'a rachetée, qui l'a acquise par son sang. Et cela, on peut le dire de l'Église, et vous voyez qu'on peut le dire d'une âme aussi en particulier. Au verset 12, « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. » Sortons dans les champs, demeurons dans les villages. C'est une pensée qui, elle aussi, revient à certains passages de l'Ancien Testament, notamment et surtout dans le psaume 37. Dans le psaume 37, prenons ce psaume 37, nous lirons d'abord verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Certains peuvent même traduire ici par campagne, n'est-ce pas? Aie la campagne, l'étendue, l'étendue verdoyante qui est là, n'est-ce pas? C'est cela l'idée qui est ici. Et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Le verset 9. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. C'est une forme des promesses données à Israël, et qui a un sens pour nous aussi. Le verset 11. Les misérables possèdent le pays. Les misérables ne sont pas des gens misérables quant à leur pensée et leur péché. Les misérables, ça veut dire les tout pauvres hommes, les hommes qui sont pauvres, pauvres, qui se savent pauvres, les pauvres en esprit, les pauvres. C'est ça les misérables ici, n'est-ce pas? C'est une traduction, ne l'oublions pas. Donc les pauvres possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Nous avons aussi le verset 22, car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays. Ils possèdent le pays, la campagne, l'étendue. Le verset 29, les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Le verset 34, espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Dans le psaume 43, 43 et au verset 3, nous avons « Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. » Les demeures de l'Éternel. Le psaume 84, verset 2. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Et vous le savez que le Seigneur Jésus a fait cette déclaration. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures, les demeures. On savait ce que, les Juifs savaient ce que ça voulait dire, les demeures de l'Éternel, les demeures de Dieu. Elles étaient tant dans le pays de Canaan que aussi dans cette cité céleste vers laquelle bien des regards savaient se tourner. Eh bien, là, notre cantique nous dit « Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, dans la campagne et demeurons dans les villages. » Vous voyez que c'est une pensée qui est déjà située. Le vœu que fait la Sulamite ici est quelque chose qui naît normalement dans son cœur sous la pression de l'amour. Son désir, c'est de posséder le pays avec son bien-aimé, d'aller à la prendre possession du pays selon une promesse et des demeures. Et des demeures de Dieu, des demeures qui appartiennent à son bien-aimé, demeurons dans les villages, non pas dans un des villages, dans les villages, les demeures de Dieu. C'est l'idée, n'est-ce pas, qui est là exprimée sous cette forme de parabole. Verset 13. Dès le matin, nous irons aux vignes, nous verrons si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Nous terminerons ce verset dans un instant. Ici, c'est l'image de la joie, de l'allégresse, mais c'est aussi celle de l'activité spirituelle. Dans une vie d'obéissance, il n'y a pas d'oisiveté. Alors, la Sulamite est en somme emportée par un désir joyeux, dès le matin, d'aller vers les vignes, et là, de voir croître et grandir le jardin de Dieu, le pays de Dieu, de voir pousser la vigne, les grenadiers, toute la parure dont le printemps se couvre, les fleurs. Et elle désire aller vers tout cela. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au chapitre 1er et au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses posséder le pays, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, la charité, non pas la charité, l'amour de l'esprit. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez, là, il y a, n'est-ce pas, une forte pression qui s'exerce dans le cœur de la Sulamite qui désire cette activité spirituelle, nous le comprenons, car il ne peut pas y avoir de d'oisiveté dans la vie spirituelle. Pensons à cela, mes amis, l'oisiveté, c'est ce qui nous guette aussi, l'indolence, la paresse, le manque de ferveur, la paresse, Paul en parle dans les Romains, la paresse spirituelle, se laisser comme ça, porter par les heures, les jours, les événements, les circonstances, un sourire d'un côté, un sourire de l'autre, mais il y a dans la vie spirituelle vraiment une activité. Allons voir les fleurs, allons voir la vigne pousser. Et la vigne, vous savez que dans l'Écriture, c'est essentiellement le peuple de Dieu aussi qui est sous cette figure-là. Dans Ésaïe 5, il y a le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. C'était le plan de Judas qu'il avait planté là. Il a tout fait pour que sa vigne donne de bons fruits. Alors, il y a cette idée-là, n'est-ce pas ? Allons voir croître et grandir les jeunes âmes, s'étendre les fleurs et les fruits de la vigne qui est le peuple de Dieu. Et la Sulamite dit « Allons !» Allons, elle ne dit pas « Je vais toute seule ». Le regard qu'elle désire porter sur le pays de l'Éternel se joindra à celui de son bien-aimé. En somme, elle est animée du même désir que lui. Elle veut contempler l'œuvre de la grâce. Comme le Seigneur Jésus a contemplé la campagne, les champs à Sunem, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Ah, le Seigneur Jésus s'est réjoui de ce que les champs blanchissent pour la moisson. Lui aussi a regardé la vigne. Il l'a même regardé ce soir tragique où il est descendu. Après avoir institué la Sainte Seine, il est descendu le long du Cédron pour remonter vers Gethsémané. Et là, il a parlé de la vigne à ses disciples. Je suis le cep, mon père est le vigneron, vous êtes les sarments. Il faut que les sarments portent beaucoup de fruits. Et nous étions peut-être sous un clair de lune lorsqu'il a prononcé ces magnifiques paroles. Ainsi donc, vous voyez, l'Église elle-même est portée au même désir que son maître, voir les fleurs apparaître dans la vigne de l'Éternel, dans ce peuple que l'Éternel s'est donné, voir le fruit abondant apparaître, ou les champs qui blanchissent pour la moisson. Mais, chers amis, il ne faut pas que ce désir soit dévié. Il faut qu'il soit exercé sous la direction du Saint-Esprit, avec le discernement que donne le Saint-Esprit, et de ne pas aller prendre n'importe quoi pour des champs qui blanchissent, ou pour des vignes qui portent des fleurs, où les fleurs poussent, de ne pas aller regarder n'importe quelle œuvre pour dire « Alléluia !» comme l'œuvre de l'Éternel. Prenez bien garde à cela, mes amis, il y a actuellement des chiens, de mauvais ouvriers, nous en sommes entourés. Prenez garde de ne pas aller n'importe où, n'importe vers qui, et de ne pas admirer n'importe quoi. Le pays de l'Éternel a toujours lui-même servi d'une parabole, je dirais, concrète, existante, placée sous les yeux du peuple. Le pays de Canaan, le pays de la promesse, le pays de l'éternel. Et vous savez que chaque fois que Israël était fidèle à son Dieu, le pays se parait de belles fleurs, de beaux fruits, cela embaumait partout en effet, comme nous le dit le cantique. Nous avons par exemple dans Ézéchiel 20, Ézéchiel chapitre 20 et verset 6. En ce jour-là, j'ai levé ma main vers eux pour les faire passer du pays d'Égypte dans un pays que j'avais cherché pour eux. Dieu s'exprime. Un pays que j'avais cherché pour eux. Pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Le plus beau de tous les pays. Et le pays d'Israël est en voie de redevenir un beau pays par le travail de ses habitants pour l'instant, quoique la grâce de Dieu soit déjà intervenue. Nous en avons des certitudes, des témoignages absolument irrécusables que déjà la grâce de Dieu est intervenue pour redonner rapidement à ce pays une beauté qu'il n'avait plus, car c'était devenu un désert de cailloux et de sable et de ruines. Mais les ruines sont relevées. Nous avons à la fin du verset 13, là je te donnerai mon amour. La Sulamite, et nous voyons en elle l'Église, donne à, ce seigneur, à son Seigneur ce qu'il a fait venir en elle, c'est-à-dire l'amour d'en haut. Demeurez dans mon amour, a dit le Seigneur Jésus. Demeurez dans mon amour. Et lui-même proclame son amour pour l'Église. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé. Le Seigneur, plusieurs fois, a affirmé son amour pour l'Église. Quel amour ? Amour spirituel, dégagé de toutes les vanités de la terre et surtout les souillures de la chair. Un amour pur, amour de l'esprit, amour qui veut sauver, amour qui veut introduire dans le royaume de Dieu, amour qui apporte l'immortalité même de Dieu. Et l'Église, donc, redonne à son Seigneur l'amour dont elle a été elle-même remplie. C'est ce que veut dire essentiellement « demeurez dans mon amour ».« Demeurez dans mon amour ». Et nous avons un passage des Proverbes qui dit de la part de Dieu « Mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur ». Et là, la Sulamite dit « Je te donnerai mon amour, donne-moi ton cœur », ce qui veut dire « donne-moi l'amour de ton cœur ». Dans Jérémie 24, verset 7, « Je leur donnerai un cœur pur, un cœur, non, pur, qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, c'est-à-dire pour qu'ils me connaissent intimement, un cœur capable d'aimer Dieu. Et vous savez que le premier des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu aimeras et ton prochain » comme toi-même. Ensuite, nous avons au verset 14, les mandragores répandent leur parfum, et nous avons à nos portes tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Les mandragores sont des plantes qui poussent dans les régions chaudes, en Israël. Je ne sais pas s'il y en a toujours maintenant, mais enfin il y en a dans certaines régions chaudes. Et ce sont des plantes assez curieuses. La racine est tubérisée et bifurquée, comme un peu certaines carottes quelquefois qui, n'est-ce pas, se divisent en deux vers la pointe. Et alors elle rappelle d'une façon frappante, cela a été observé de tout temps, la forme d'un corps humain. Et alors, en plus, il y a des radicelles assez longues et qui forment comme une robe. On dirait un corps humain, n'est-ce pas, vêtu d'une robe. Cette plante porte des fleurs violacées, des fruits après les fleurs qui sont gros à peu près comme les prunes dentes que nous ovoïdes, n'est-ce pas, de forme ovoïde, mais de couleur jaunâtre. Et alors, toutes les parties de la plante, les feuilles qui sont luisantes, et toutes les parties de la plante, les tiges, les fleurs, alors essentiellement au moment des fleurs, ça se dégage, n'est-ce pas, plus qu'en toute autre période, alors là, n'est-ce pas, provient de cette plante une odeur magnifique, suave, excellente, qui est un peu particulière, nous n'y sommes peut-être pas habitués, mais elle est très très appréciée des Orientaux. Et c'est pour ça que ici, les mandragores répandent leur parfum. Quand on va dans la campagne au printemps, quand on allait, n'est-ce pas, je n'y suis pas allé évidemment, mais j'y vais avec le texte biblique, n'est-ce pas, eh bien, alors, on devait sentir cette odeur, enfin, à de certains moments, quand les mandragores étaient là, une odeur suave, et il y a des textes historiques, poétiques, qui parlent de ce parfum délicat et supérieur qui se dégage des mandragores. Évidemment, n'est-ce pas, quand l'œuvre de Dieu se fait, quand il y a l'amour, et quand il y a l'obéissance, la soumission, quand l'Église est unie à son Seigneur et le suit et va avec lui, alors il y a évidemment dans l'air le bon parfum de l'amour de Christ. Il y a à nos portes, dit la Sulamite, c'est-à-dire à notre portée, tout simplement, c'est une autre expression que à notre portée, tous les meilleurs fruits, l'union avec le Christ est la source des meilleurs fruits, l'abondance des fruits pour le Seigneur. Vous savez que dans Jean 15, le Seigneur a dit, il faut que vous portiez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père qui est dans les cieux sera glorifié. Nous avons la capacité nous est donnée par l'Esprit de glorifier Dieu. Et comment? Avec du fruit. C'est pas avec des paroles seulement qu'on peut glorifier Dieu. Les paroles sont bonnes quand le fruit y est. Mais sans le fruit, les paroles sont presque une offense. Il vaudrait mieux qu'elles ne soient pas là, mes amis. Vous voyez, n'est-ce pas, comme véritablement, comme le dit un proverbe, noblesse oblige, eh bien la noblesse que nous avons vue, dont la Sulamite est parée, dont l'Église est parée, cette noblesse l'oblige à être ce que son Seigneur veut qu'elle soit et ce que son Seigneur a fait pour qu'elle soit, pour qu'elle porte du fruit, comme des sarments pleins de vigueur. Et alors, nous lisons ici que nous avons à notre portée, en somme, tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Pourquoi? Les fruits anciens sont encore là avec les nouveaux. Mais oui, lorsque la terre aura été renouvelée, il y aura une fructification chaque mois, et il y aura toujours aux arbres, aux figuiers notamment. Vous savez que le Seigneur Jésus est venu vers un figuier, il a regardé dans les feuilles, il n'a point trouvé de fruits, alors que ce n'était point la saison des figues. Hein? Eh bien, cependant, il a maudit le figuier, parce que dans la nouvelle création, il y aura fructification permanente des fruits anciens et des fruits nouveaux. Ils seront là ensemble, et les anciens seront aussi bons que les nouveaux. Les nouveaux ne seront pas meilleurs, ou vice-versa, les anciens meilleurs que les nouveaux, les fruits seront bons. Ce sont des fruits, comme l'a dit le Seigneur Jésus, qui demeurent. Le Seigneur veut que nous portions non pas des fruits fugitifs, des fruits qui se gâtent, mais des fruits qui demeurent. Dans Jean 15, le Seigneur insiste là-dessus. Si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en vous, vous porterez des fruits qui demeurent. L'Église doit porter des fruits qui demeurent, non pas seulement en âme sauvée et qui le sont réellement et qui le restent, mais des fruits de l'Esprit, mais des fruits dans le service du Seigneur, mais des fruits dans la louange, mais des fruits dans l'obéissance au Seigneur, des fruits qui demeurent. Et non pas des fruits qui se gâtent, hein, ou des fruits qui cessent, n'est-ce pas, une période sans fruits. Le Seigneur a maudit le figuier pour cela. Nous arrivons au chapitre 8. Nous ne verrons du chapitre 8 que les quatre premiers versets. « Oh, que n'es-tu, mon frère, à l'été des mamelles de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je veux te conduire, t'amener à la maison de ma mère. Tu me donneras tes instructions, et je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades, que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. » Je vous en conjure, fille de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Nous avons dit, n'est-ce pas, avant qu'il le veuille, je vous ai expliqué pourquoi. Soudain, la Sulamite réalise qu'elle n'est pas de même origine que le bien-aimé. Il se passe là dans son cœur quelque chose de tout à fait particulier. Elle réalise que son bien-aimé est très fugitif, certes, elle entend sa voix, elle lui parle, il répond, elle peut se laisser éclater en chant de louange et en vœux, comme ce que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Viens, mon bien-aimé, sortons dans les champs, demeurons dans les villages. Elle peut tout cela, mais elle n'a pas son bien-aimé suffisamment à sa portée, suffisamment avec elle, à tous les instants. Il y a quelque chose, en somme, dans son cœur, qui prend un tour un peu humain. Et c'est bien, on ne va pas dire que c'est là, n'est-ce pas, un retour en arrière. Mais il y a une pensée qui est un peu, prend un contour un peu humain. Elle ne peut pas, elle voudrait mieux saisir son bien-aimé, être avec lui. Alors elle dit, « Oh, que n'es-tu mon frère ? Si tu étais mon frère, à l'été des mamelles de ma mère, et je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais, nous serions vraiment, n'est-ce pas, il y aurait une union comme celle que l'on peut voir vraiment au niveau de la terre. » Voyez-vous, n'est-ce pas ? Il ne faut pas la taxer de quoi que ce soit en cela. L'Église a hâte d'être réunie à son Seigneur. Dans un sens, il ne faut pas oublier que l'Église, bien que le Seigneur soit là, mais le Seigneur c'est l'Esprit, il n'a pas laissé l'Église orpheline. Vous n'êtes pas des orphelins, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Et cependant, il est dit aussi autre part que l'époux n'est plus là. L'époux n'est plus là, et que c'est le temps, n'est-ce pas, de la prière, du jeûne, parce que véritablement l'époux n'est pas là. On n'a pas l'union, n'est-ce pas, doit être uniquement une union en esprit avec le Seigneur, mais cette union en esprit est pressante, et elle veut aller à une réalisation plus proche, plus concrète encore, n'est-ce pas? Et c'est l'aspiration au retour du Seigneur. Viens, viens, Seigneur Jésus, viens, n'est-ce pas? L'époux et l'épouse disent, viens, viens, n'est-ce pas? Il y a un appel du Seigneur pour l'avènement. L'Église attend l'avènement, aime l'avènement du Seigneur. Et c'est cette pensée qui vient dans le cœur de la Sulamite. Elle réalise qu'il y a quand même quelque chose, une différence maintenant entre cette union avec son bien-aimé et puis l'union de deux êtres sur la terre qui sont constamment ensemble comme le frère et la sœur. Actuellement, l'Église souffre et elle est méprisée. Je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. L'Église est méprisée du fait que sa vie véritable est cachée avec Christ en Dieu. Et elle est haïe sans cause, comme l'était le Seigneur abaissé. Elle est-elle maintenant dans l'abaissement? L'Église est dans l'abaissement. C'est sa position maintenant. Et la Sulamite pense qu'il aurait été bon que le bien-aimé et elle soient de même souche que n'es-tu mon frère. Ah, si nous avions été de même souche. Elle oublie que sa souche à elle, c'était celle de la déchéance. Le bien-aimé est celui qui la relève et qui va lui donner une autre filialité. Mais il ne s'agit pas pour le bien-aimé, n'est-ce pas, de rester abaissé à la filialité de la Sulamite. Assez souvent, les chrétiens pensent ceci. Ah, si je m'étais converti plus tôt, dans ma tendre jeunesse, je suis venu bien tard. J'avais tel âge, je suis venu bien tard au Seigneur. Il regrette d'être venu si tard, car il goûte que le Seigneur est bon, que son amour est merveilleux, mais il faut qu'il sache qu'il y avait une heure de Dieu, et que si cette heure s'est fait attendre, eh bien, c'est parce qu'il n'était pas apte, il n'était pas prêt à cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur connaissait l'heure, il n'était pas prêt à cette rencontre. Ils ont même lutté contre l'amour du Seigneur. Ils ont résisté, ils ont lutté. Après coup, évidemment, étant convertis, ayant goûté que le Seigneur est bon, alors ils se disent, oh, si j'avais pu vraiment le connaître, quand j'étais tout jeune, tout petit, oui. Mais non, ce n'était pas le temps. Il ne faut pas oublier que nous sortons de cette terre desséchée, de cette humanité sans vie, cette humanité qui a perdu entièrement l'obéissance à Dieu, qui ne peut pas obéir à Dieu, qui est séparée de Dieu, et nous étions, nous, comme les autres, des révoltés dans le sein de l'humanité qui nous a enfantés. D'autre part, nous pouvons penser évidemment aux enfants, et particulièrement aux enfants des chrétiens. Il y a des enfants qui s'approchent du Seigneur dans un très jeune âge. Cela se voit quelquefois. Quelquefois, pas toujours. Un très jeune âge, un très jeune âge. Je vous assure que j'en ai vu. J'en ai vu dans ma propre maison, n'est-ce pas? Un très très jeune âge. Nous avons eu une petite fille qui n'est plus de cette terre maintenant, n'est-ce pas? Elle est d'un autre pays. Et deux ans et demi, trois ans, chose extraordinaire. Elle avait une foi qui étonnait tout le monde, n'est-ce pas? Une foi extraordinaire, au point qu'elle prophétisait. Elle prophétisait. Et il lui est arrivé de dire à peu près à cet âge-là, l'âge de trois ans, les premiers seront les derniers, mais les derniers seront les premiers. Et je ne sais pas quand elle avait entendu dire ça, je ne sais pas, à cet âge-là, retenir ça. Les derniers, avec un air grave. Et puis quelquefois, n'est-ce pas, se mettre à pleurer alors qu'elle était toute joyeuse, pleine de vie. Je veux aller avec le Seigneur. Je veux aller avec le Seigneur. Et vous savez, il y a des jeunes enfants, le Seigneur les prend. Il les prend. Ce sont les prémices, les premiers fruits qu'il cueille sur la terre. Il les prend, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Oh non, non. Et il y a des résistances. Il y a des combats, il y a des gestes épouvantables qui repoussent durement la main du Seigneur quand elle s'approche. L'homme est un révolté, ne l'oublions pas. Alors, ce n'est pas possible, n'est-ce pas, que Dieu nous ait pris avant l'âge où il a jugé le moment venu de nous prendre, n'est-ce pas? Il y a eu un âge où il nous a pris. Ainsi, le vœu de la Sulamite, « Oh, que n'es-tu mon frère, allaité des mamelles de ma mère », est quelque chose, n'est-ce pas, évidemment que l'on comprend bien, mais c'est un doux vœu qui n'est pas réalisable. Il y a autre chose que cela. Le Seigneur, lui, a un tout autre plan. Il va, évidemment, donner une même filialité à l'Église que celle du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus disait, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas. C'est comme ça. C'est comme ça. Vous êtes né de la chair. Et le Seigneur est né dans la chair sans lui jamais avoir appartenu à la chair. Voyez, n'est-ce pas ? Par l'opération du Saint-Esprit. Il est né, n'est-ce pas, dans le sein d'une femme, né de femme, sans avoir appartenu à la chair tout en ayant une chair d'homme. Ah, c'est le moment de dire qui comprenne, qui peut comprendre, comprenne. Eh bien oui, il n'a pas appartenu à la chair. Il n'a pas eu, lui, les mécanismes affreux de la chair. Mais nous, ce qui est né de la chair est chair. Nous avons été chair. Cette chair enflammée et révoltée contre l'amour de Dieu. Nous avons été cela. Et le Seigneur a un plan. Il faut absolument qu'avec le Christ, nous soyons de même filialité. Il faut qu'en somme, si vous voulez, en me servant de l'image qui est ici, nous soyons en somme enfants, allaités par les mêmes mamelles. Eh bien oui, mais nous allons entrer, nous sommes déjà entrés dans une autre filialité. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous rejoignons le Seigneur dans une filialité où il est, lui, le type, le prototype, l'archétype. Et vous savez que Romains 8 nous montre que nous serons à son image, nous sommes prédestinés d'être à son image et nous serons par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose, de rendre tous les hommes rachetés semblables, entièrement semblables à lui, nous aurons un corps comme lui, nous aurons une âme comme lui, lui qui est venu prendre notre misère, notre chair, une chair semblable à celle du péché, n'est-ce pas, notre chair humaine, et qui l'a passé par la mort, par la résurrection, et qui l'a glorifié, n'est-ce pas, l'a porté au Père pour qu'il la glorifie, eh bien nous de même, nous serons cela. Vous voyez, c'est le Seigneur qui va nous donner, en somme, son origine, participant que nous sommes déjà, pour l'instant, de la nature divine. Ces choses sont merveilleuses, chers amis. Ce sont des pensées qu'il ne faut pas abandonner. Il faut qu'elles soient là, dans notre cœur. Comment pouvons-nous vraiment être une église où le Seigneur prenne son plaisir si nous n'avons pas ces pensées-là dans le cœur ? Si nous pensons à nos petites affaires, nos petites histoires, oh, vous savez, moi je suis désolé que les chrétiens aient tant de pensées, tant de choses en tête, tant d'histoires. Ils n'ont pas assez dans le cœur l'amour de l'avènement du Seigneur. Ils n'ont pas assez dans leur cœur ces riches pensées, ces riches révélations, les richesses incompréhensibles de Christ, révélées-là, qui sont pour eux, il faut qu'ils les aient en eux. Autrement, il est impossible de vivre la vie chrétienne comme elle doit être vécue. Et puis, alors, la Sulamite va dire ensuite, « Tu me donneras tes instructions. » C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai fait chanter « Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. » N'est-ce pas ? Voilà ce que dit la Sulamite. « Donne-moi tes instructions. » Elle se veut comme Marie, la sœur de Lazare, au pied du Seigneur, elle qui avait choisi la bonne part. Elle se veut ainsi. D'ailleurs, je vous ai montré qu'entre la Sulamite du Cantique et la Marie, sœur de Lazare, qui a été au pied du Seigneur Jésus et a même répandu un parfum de nard sur sa tête et ses pieds, je vous ai montré qu'il y avait de grandes relations, qu'il y avait un rapprochement qui était fait dans l'Écriture. C'est pas nous qui le faisons, il est fait dans l'Écriture. Je te ferai boire du vin parfumé, du moût de mes grenades. Le vin parfumé, c'était un jus de fruits. On l'appelait vin. C'était un jus de fruits, ce n'est pas un vin alcoolisé, un jus de différents fruits. Et le moût des grenades, c'est un jus. Moût, ça veut dire jus. Jus des grenades. Et cela forme évidemment d'excellentes boissons. Voilà, elle donnera ce qu'elle peut donner au Seigneur, n'est-ce pas? Ce qu'elle a de mieux, ce qu'elle a comme Marie, n'avait que ce vase d'albâtre contenant un parfum de nard. Que sa main gauche soit sous ma tête et sa droite m'embrasse ce qu'elle veut, après avoir, en somme, eu beaucoup d'activités, après sa course dans le pays, dans les campagnes, pour voir la fleur de la vigne, et pour voir les grenadiers en fleurs. Alors, l'activité, à un moment, l'a épuisé, et l'activité, certes, doit réapparaître chaque jour, mais il y a temps pour tout. Elle a besoin de se réfugier dans le sein de son grand protecteur. Elle a besoin des bras éternels, des bras éternels. Que ta main gauche soit sous ma tête et que ta droite m'embrasse. Elle a besoin, là, de protection et de tendresse. Et puis, nous terminons par ce verset 4 que nous avons déjà trouvé ailleurs. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Les filles de Jérusalem, que l'on voit réapparaître de temps à autre dans le cantique, et dont les grossiers interprétateurs, je ne retire pas mon terme, je le maintiens, les interprétateurs grossiers, si vous voulez, n'est-ce pas ? Ceux qui ont interprété à travers des vues de la chair. Alors, ils en ont fait des chœurs, comme il y a dans un opéra, vous savez, de temps en temps, n'est-ce pas, les chœurs réapparaissent. Oh, qu'ils sont misérables, ceux qui maltraitent ainsi la parole de Dieu. Les filles de Jérusalem, ici, sont bien sûr les compagnes, elle n'est pas toute seule dans l'existence, la Sulamite. Et ils sont un peu comme les fils des prophètes, qui réapparaissent de temps en temps. Ils réapparaissent allant à la rencontre d'Élisée, chaque fois qu'ils se préparent à une nouvelle étape, à la suite de celui qu'il appelle son père, Élie, le prophète Élie, n'est-ce pas? Alors, on voit réapparaître les fils des prophètes qui sont là, qui lui parlent, et qui dit, tu sais que le Seigneur va enlever ton maître aujourd'hui, je le sais, taisez-vous! Il faut qu'ils parlent beaucoup, ces fils des prophètes. Ils ont quelque chose à faire. Ils sont parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant les Baals. Mais ils parlent trop. Ils parlent trop. Et ces filles de Jérusalem sont ainsi. Je vous en conjure, filles de Jérusalem. En somme, taisez-vous. Taisez-vous. N'agissez pas inconsidérément. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Elle serait tentée de presser la Sulamite d'aller ici et là, sans comprendre qu'en dehors de la volonté du Seigneur, c'est le vide, il n'y a rien, elle ne sait pas encore cela, elle la ferait dépasser la mesure de grâce, la grâce à certains moments a des douceurs, c'est un zéphyr, taisez-vous, laissez l'amour dans sa liberté, il le faut, n'intervenez pas. Inconsidérément, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille lui-même. Il faut laisser à l'amour toute son initiative, car l'amour est une plante délicate, mais combien merveilleuse. Amen.